Chine d'amour.
Get things done. Come on, I wanna.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Liberté 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui démarre pour ce jeudi 8 mai, avec une émission consacrée aujourd'hui à la langue de Lancard, de Anne-Laure Poré. Vous venez d'entendre, toujours avec ses choix qui mélangent la pertinence, la lucidité, l'originalité, la créativité et la surprise de la part de José. Sister Double Happiness est une reprise des Dead Kennedys, évidemment, qui s'appelle Holiday in Cambodia. Pourquoi ? Eh bien, parce que le livre donc, que nous présente Michel ce soir, La langue de Lancard, Anne-Laure Poré, aux éditions La Découverte, porte précisément sur cet épisode politique assez stupéfiant, qui est celui de l'arrivée au pouvoir et de l'exercice du pouvoir des Khmer Rouges au Cambodge, d'où évidemment ce lien avec le morceau de Dead Kennedys, repris par un autre groupe ici. Alors Michel, donc ce livre Anne-Laure Poré, édition La Découverte, il est consacré à ce régime des Khmer Rouges, régime communiste radical, pourrait-on dire, qui arrive au pouvoir en avril 75. Hein, ça va durer 4 ans, ils vont rester au pouvoir jusqu'en 79 avant d'être dégagés par leurs camarades vietnamiens. Tout un tas de raisons que tu vas développer. Anne-Laure Poré, qui est l'auteur de ce livre, les éditions La Découverte, en fait, c'est journaliste à l'origine, anthropologue, et c'est un livre qui est tiré de la thèse qu'elle a consacrée, c'est ça, à cet épisode sanglant, terrifiant, du gouvernement des Khmers Rouges au Cambodge, donc à la fin des années 70. Quel est le propos du livre? Il est sous-titré, hein, c'est donc La langue de Lancard. Alors Lancard, c'est le nom du parti communiste cambodgien. Et ce titre, Leçon Khmer Rouge d'anéantissement, le propos du livre, la manière dont elle...
Alors le propos du livre, mais je vais peut-être à un moment ou un autre faire un petit rappel quand même sur l'arrivée au pouvoir de Lancard au Cambodge. Le propos du livre, en fait, elle se centre sur un document en particulier qui était conservé dans un centre de torture et de mise à mort qu'on appelle, qui est très connu, qui s'appelle S21,
oui.
Auquel Ritchie Pan a consacré un film documentaire
en 2003
que je vous recommande alors chaudement si vous avez le moral, parce que c'est quand même un film assez dur, mais film documentaire qui confronte deux survivants parmi les 7 originaux sur les plus de 12 000 personnes qui sont passées par ce centre, pour vous donner une idée de l'échelle, à quelques anciens gardiens. Et donc dans ce centre de torture S21, il y a beaucoup de documents qui ont été conservés après la chute éclair et un peu imprévue des Khmers Rouges devant l'arrivée des forces vietnamiennes. Et donc il y a beaucoup de biographies, mais ça j'y reviendrai, des gens qui ont été torturés, d'aveux de trahison. Mais il y avait aussi des espèces de leçons données par le directeur du centre, qui s'appelait Douche, je ne sais pas trop comment ça se prononce.
Pseudonyme,
ancien professeur de mathématiques, et où il enseigne aux interrogateurs la meilleure façon d'interroger, comment il faut interroger.
Quand il faut pratiquer la torture.
En gros, pratiquer la torture, oui. Même s'il appelle ça parfois faire de la politique. et donc, et ce cahier se distinguait beaucoup des autres parce que par sa très bonne tenue, il est tenu de très très méticuleux. Il y a beaucoup de cahiers en fait. C'est pas Douche qui écrit, c'est des prises de notes.
Annotées par Douche.
Et mais en même temps, il y a beaucoup d'autres cahiers comme ça où les gardiens et les interrogateurs ont pris des notes, mais parfois ils n'étaient pas très très éduqués eux-mêmes, et donc ils ne prenaient pas forcément bien des notes. Là, c'est des notes qui sont très très bien prises.
Alors comme tu dis, peut-être juste coupe, mais c'est peut-être pas surprenant que ce soit ces documents-là et ces archives-là retrouvés à S21 qui servent régulièrement en fait de point pour comprendre ça, parce qu'en fait c'est un régime qui en réalité a laissé extrêmement peu de traces écrites, documentaires. Mais peut-être du coup, avant qu'on en vienne à ça, tu disais peut-être resituer qui sont les Khmers Rouges. comment ils arrivent au pouvoir, en fait, d'où ils viennent d'une certaine manière, et puis qu'est-ce qui se passe, quoi, le 17 avril 75.
Alors pour ça, je vous donnerai, une fois n'est pas coutume, peut-être un petit conseil bibliographique, si jamais c'est une histoire qui vous intéresse, parce qu'il y a peu de livres qui sont consacrés à l'histoire du Cambodge. J'en ai trouvé un, qui est cité justement, je crois, par Anne-Laure Poré, de David Chandler, un historien australien. Ça s'intitule « Une histoire du Cambodge ». Ça a été publié aux Indes savantes. Alors la partie consacrée au Kampuchea, c'est-à-dire au nom donné par les Khmers rouges au Cambodge, est relativement brève. Mais voilà, c'est une histoire un peu générale qui retrace en fait toute l'histoire du Cambodge. Et en particulier, le dernier tiers est consacré à aussi son histoire sous la domination française, mais aussi après aux différents... différentes avanies que va connaître ce pays. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, globalement, le contexte, c'est dans le contexte de la guerre du Vietnam et de l'indépendance du Laos, du Cambodge et du Vietnam par rapport aux anciennes puissances coloniales.
La France
en particulier, mais aussi dans un contexte où les grandes puissances, finalement, vont lutter dans cette région-là. Donc, il y a la Chine, l'URSS et les États-Unis qui sont massivement impliqués quand même dans le coin. Et pour simplifier, globalement, d'abord il y avait un royaume après l'indépendance par rapport à la France. Ce royaume est renversé pour différentes raisons par le roi est renversé par si j'ai bien compris, parce que c'est assez complexe. Le roi a moins été chef d'État. Ensuite, il est renversé par son premier ministre,
Le Mnol,
et lui-même. Donc ça se passe en 70, et lui-même va être renversé par les Khmers rouges en 75. Et les Khmers rouges ont été longuement dépendants, mais avec beaucoup de friction, des Nord-Vietnamiens. Et ils ont établi une guérilla, finalement, dans les campagnes cambodgiennes, qui ont longtemps assiégé les centres urbains. Et en 75, les Khmers rouges renversent Lom Nol et prennent le pouvoir au Cambodge. Et ce qu'ils vont faire en 4 ans, alors le chiffre lui-même, Alain Badiou, un ancien soutien du Kampuchea libre, hein, disent que les chiffres sont le degré zéro de la pensée. C'est quelque chose qu'on a souvent cité ici, parce que je crois que ça nous agace pas mal. Les Khmers rouges arriveront quand même à tuer à peu près un quart de la population
en 4 ans. Près de 2 millions dans les fourchettes hautes.
Près de 2 millions 3 dans les fourchettes hautes, 1 million 7 dans les fourchettes basses, sachant qu'il y a plein de choses qui manquent. Et globalement, c'est une révolution agricole, en fait. L'idée, c'est, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils vident les villes et ils vont envoyer tous les habitants des villes qui sont appelés peuple nouveau, au contraire du peuple ancien. Le peuple ancien étant celui qui a vécu déjà sous l'autorité
des Khmers rouges.
Les Khmers rouges, les quatre ou cinq ans précédents, pendant leur guérilla.
Dans les zones occupées, oui.
Les Khmers rouges et le peuple nouveau, donc c'est les citadins, les intellectuels, les professeurs, les juges, tous les fonctionnaires de la République cambodgienne précédente. Et eux vont être quand même massivement exterminés. Avec l'idée derrière, l'idée des Khmers rouges n'est pas totalement, meurtrière. Quoique, il y a des trucs qui sont clairement meurtriers ici. Mais une de leurs idées, entre guillemets, c'est de booster la production agricole, la production de riz. Ils rêvent que tout debout, avec une espèce de programme qui consisterait à passer à produire 3 tonnes de riz par hectare, sachant qu'au Cambodge, il y a une production qui est un peu de moins de 1 tonne par hectare. Et
le tout avec un programme en fait de communisme direct immédiat, abolition totale de toute la monnaie dès leur arrivée au pouvoir,
de la propriété privée
et une collectivisation générale de tout.
Oui. Immédiate.
Voilà, immédiate. Et alors, juste schématiquement, tu me dis si je me trompe, mais en fait, bon, juste un petit retour en arrière, mais pour comprendre bien les enjeux, les rapports de force locaux, en fait, historiquement, sur l'indépendance de l'Indochine, en fait, la locomotive anti-française, c'est le Parti communiste vietnamien. Et c'est Ho Chi Minh, c'est les plus structurés. Et les Khmers rouges, qui sont en fait les supplétifs cambodgiens du Parti communiste vietnamien, sont formés d'abord par les Vietnamiens d'Ho Chi Minh.
Oui.
C'est Pol Pot.
Oui.
Alors tous ces gens-là ont été formés à Paris.
Oui, par Jacques Duclos.
Tout à fait.
Enfin, Pol Pot était ami de Jacques Duclos.
De Jacques Duclos, notamment. De Jacques entre Vergès autres. Aussi.
Oui, c'est vrai. Jacques Vergès, qui a poursuivi cette amitié longtemps, puisqu'il a été l'avocat des derniers Khmer Rouges dans le procès qui leur a été fait. Voilà. Dans les années 2000, je crois, au Cambodge.
Et donc, le PC vietnamien, donc, auréolé de sa victoire, alors, d'une part, contre la France d'abord, puis ensuite, dans un deuxième temps, contre les Américains, et soutenu par l'Union soviétique, à pleine balle, combat, évidemment, les États-Unis sur son propre territoire. Les Khmers Rouges, au départ, d'une certaine manière, sont formés par les Viet, mais avec tout de suite cette particularité ethnique d'abord, parce qu'il y a un racisme anti-vietnamien extrêmement fort, de la part des communistes Khmers. Et en fait, les Khmers Rouges vont rompre assez rapidement avec le PC vietnamien, qui cherche à les mettre, lui, de son côté en orbite, comme le Laos. Le Laos va être mis sous tutelle de Viet. Et ils vont, pour ça, recevoir, eux, le soutien du Parti communiste chinois.
Oui. Donc, et sans doute aussi de la Corée du Nord.
Et de la Corée du Nord, et pas seulement, parce que... c'est effectivement, du point de vue des soutiens internationaux, les Khmers Rouges ont reçu aussi le soutien des forces spéciales britanniques, de manière marginale, et aussi le soutien, en partie, des États-Unis, puisque ça a emmerdé les Vietnamiens qui étaient en guerre contre les Américains. Bon, enfin, c'est pas essentiel, parce que, évidemment, j'imagine que le cœur du bouquin, c'est sur le régime Khmer en tant que tel, comme une espèce de régime totalitaire à peu près absolu. Je pense que. À Corée du Nord, on est effectivement, il y a en longévité, on est bien.
Oui.
Mais en termes d'extermination totalitaire, je pense qu'au niveau des Khmers Rouges, on
est sans doute
sur le podium. Et du point de vue idéologique qui va avec, là, c'est effectivement assez stupéfiant.
Ouais. Complètement. Donc t'as bien fait de retracer aussi le truc vietnamien, parce que je m'étais dit que c'était, je le connaissais moins bien que toi, et puis je m'étais dit que c'était peut-être moins, effectivement plus lointain, mais t'as raison en fait.
C'est les Viet qui vont les virer.
C'est ça, c'est parce que c'est les Vietnamiens qui vont les virer, parce que justement les Khmer Rouges vont développer une espèce de paranoïa, étant donné que leur projet pharaonique est complètement dément, échoue les uns après les autres.
Dès le départ,
ils vont développer une espèce de paranoïa en se disant que c'est les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur, et en particulier donc manipulés par les Vietnamiens, la CIA ou le KGB ou les trois, on pensait pas trop. Et ils vont ils vont mener une politique un peu agressive au niveau des frontières avec les Vietnamiens.
Ils sont en guerre.
Et donc, à un moment, les Vietnamiens en ont marre et envahissent le Cambodge, et ils ont une supériorité militaire écrasante qui était aussi liée à leur expérience, de 30 ans de guerre, plus l'armement soviétique. Alors que le soutien chinois se fait du bout des lèvres en réalité pour le Cambodge, et que les Chinois ne sont pas tout à fait prêts à soutenir vraiment massivement les Cambodgiens, ne serait-ce qu'ils ne veulent pas leur donner d'hommes, peut-être qu'ils leur donnent des armes, ça je ne sais pas trop. Mais voilà un petit peu le schéma historique. Et le truc, c'est que très très vite, justement, comme je vous disais, le régime Khmer va ouvrir des prisons, un nombre considérable de prisons par rapport à une population qui est d'environ, je crois, 6-7 millions d'habitants, quelque chose dans ce goût-là. Je sais plus, c'est peut-être une soixantaine, j'ai oublié le chiffre exact. Et le camp de S21, là, c'est en quelque sorte... c'est l'échelon le plus haut de la répression politique au Cambodge. Il y a pas mal de camps dans les régions. Celui-là, il est pas très très loin de la capitale, de Phnom Penh. Douche est très très proche des hauts dirigeants. Des plus hauts dirigeants du Kampuchea démocratique.
Qui ont vécu dans la clandestinité et dans le secret.
C'est ça aussi, oui.
Près d'une vingtaine d'années.
Et qui, en plus, une fois arrivé au pouvoir,
reste
dans le secret pendant 2 ans, dans ce goût-là, je crois.
Voilà. Planqué derrière Sihanouk, qui est donc en fait le dirigeant fantoche,
mais qui
au départ est à Pékin, puis ensuite qui est manipulé de A à Z, et personne ne sait en fait qui dirige ce parti, ni l'encart. Et en fait, c'est assez fascinant, comme organisation. On est dans un délire.
Donc pendant 2 ans environ, personne dans les pays extérieurs au Cambodge, personne ne sait réellement qui est au pouvoir dans ce pays. Sihanouk, à un moment, est au Cambodge. Lui-même, il a peur un peu d'être assassiné, mais finalement, je crois qu'il l'envoie à l'ONU, histoire qu'il aille faire
qu'il va soutenir. Il est manipulé avant en fait que des membres de sa famille, lui-même, Sihanouk, soit en fait éliminé progressivement par les Khmers Rouges, et qui commence effectivement à se dire là, il y en a un problème.
Ouais. Ouais. Et donc le livre de Anne-Laure Porré, alors je reviens pas tellement sur tous les éléments qu'on vous donne. Elle se centre essentiellement. Alors une de ses inspirations Libération, c'est le livre de Klemperer, LTI,
La
langue du Troisième Reich. Et donc, elle va essentiellement se concentrer sur les éléments de langage utilisés par Dutsch pour justifier la torture et former ses interrogateurs.
Bah, c'est une des rares dictatures, à ma connaissance, qui a explicitement modifié la grammaire en arrivant au pouvoir.
Bah, elle ne le dit pas, ou alors je l'ai oublié.
Ah bah, il y a une suppression des pronoms personnels, systématiques.
Ah, oui.
T'as une espèce de nivellement, en fait, des pronoms de genre.
Oui.
T'as des formules imposées du type, c'est pas camarade, mais c'est ami, en fait, qui va remplacer Jean ou autre, ou quelqu'un, etc. Avec une seule hiérarchie qui concerne les membres de l'ANCA. Voilà. Et qui est inscrit, en fait, de manière brutale et directe dans la grammaire à partir d'avril 75, lorsque les Khmer arrivent au pouvoir. C'est assez fascinant, parce que c'est même pas implicite,
oui,
ou même pas par stratégie.
Oui, ils y vont. C'est-à-dire que tous les régimes totalitaires vont modifier l'emploi du langage, vont modifier l'usage de la langue. Les nazis le font à mort, comme le décrit Klemperer, mais les soviétiques aussi. C'est vrai que chez les Khmer Rouges, c'est... On a une étape au-dessus en termes d'explicitation du truc.
Ouais.
Et donc, Sihanouk, voilà, lui, il avait été roi entre 41 et 55, et ensuite il devient chef d'État entre 55 et 70, avant d'être transformé en homme de paille un peu plus tard. Et donc, elle, ce qui va être son boulot, ça va être décortiquer, en quelque sorte, le langage des bourreaux. Et pour ça, avec l'aide de Ritipan, mais aussi d'un ancien Khmer Rouge, à qui elle proposait des interprétations. C'est Ritipan qui lui avait proposé de traduire justement ce fameux cahier, ce cahier noir. Et donc, elle va en quelque sorte aussi retracer un petit peu l'origine du mot, parce que la langue mère est imprégnée de bouddhisme, par exemple. Et donc, elle voit un peu, elle revient parfois au sens littéral du terme employé par les Khmer. Le sens qu'il lui donne, dans quel champ sémantique il s'inscrit, et comment est-ce qu'il est en quelque sorte, son sens est tordu. Et donc, de ce point de vue-là, ça donne une espèce d'éclairage, justement, sur le langage totalitaire, qui me semble assez intéressante.
On va peut-être faire une première pause musicale après avoir présenté un peu le livre dans ses grandes lignes. Et puis, donc on fait une première pause et on se retrouve juste après.
Petrified bloom, towers above his statuary, reforms as an accretion. I am stumbling across the Khmer Rouge relief and on the downward. My knees crumbled into stone and dust, I'm bleeding out the treasures. Tectonics conspired to swallow me. Trees of symbiosis and organelle. The terracotta soldier saw poison grew in the fog. The military platform prevails. We slid away a carbonate, expressionlessly awaiting the avatar and the continents. They shake us. Sift our pieces. I am stumbling across the Khmer Rouge relief and on the downward. My knees crumbled into stone and dust, I'm bleeding out the treasures. Tectonics conspired to swallow me whole. Crushing the chemistries of symbiosis. Down.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui repart ce soir pour sa deuxième partie, consacrée ce soir au livre d'Anne-Laure Poré, édité aux éditions de La Découverte, qui s'appelle La langue de l'Ankar, leçon khmer d'anéantissement. Alors ça a été édité en février dernier. Voilà, donc c'est un livre qui vient de sortir et qui est consacré donc à ces quatre années terrifiantes, meurtrières de gouvernement des Khmers rouges au Cambodge. Et donc voilà, bon, Michel, tu nous présentais rapidement, en fait, enfin rapidement, mais c'est compliqué, en fait, cette situation d'arrivée des Khmers rouges au pouvoir au Cambodge, un contexte de décolonisation, etc., etc., de guerre froide, d'affrontements russo-américains, chinois, bon, la rivalité avec le Vietnam. Alors le livre en tant que tel, La langue de l'Ankar, tu l'as dit, il est consacré essentiellement donc au cahier noir, au manuel de torture rédigé par Douche, à destination des gardiens et bourreaux de la prison S21, installée dans un ancien lycée français. Voilà. Et la manière dont effectivement ces manuels tordaient la langue et construisaient une espèce de langage de torsionnaire en tant que tel. Alors comment elle a travaillé, comment elle présente ça et quels sont un peu les résultats en fait qu'elle met en avant elle à partir de ça.
Alors, elle va, elle va essayer d'identifier quelques mots-clés dans la langue de l'Ankar. Alors, l'Ankar, ça veut dire organisation. Ça porte un autre nom dont j'ai oublié en cambodgien. Mais en gros, il y a deux mots qui peuvent signifier l'organisation révolutionnaire. Mais
c'est le parti.
C'est le parti, mais elle précise que la plupart du temps, ils utilisent simplement le mot l'Ankar, l'organisation. Sauf qu'en cambodgien, ça a justement, une espèce de dimension un petit peu mystérieuse et abstraite. L'organisation, c'est pas bien ce que c'est. Donc le mot lui-même, c'est un petit peu comme en français, on pourrait peut-être dire le système, ou tu vois. On ne sait pas trop de quoi on parle, mais ça va être, c'est ça que ça signifie. Et globalement, ils vont,
Donc évidemment renforcé avec les pratiques d'anonymat dont on parlait tout à l'heure, des dirigeants, des cellules secrètes, des poupées russes, là on qu'à le dire, voilà, de chaînes de commandement, etc., etc. Et effectivement aussi, si j'ai bien compris, avec une espèce de politique un peu systématique de laisser le moins de traces possible. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'oral. Alors et là,
elle en parle pas trop de ça, mais ouais.
Mais il semblerait qu'effectivement c'est un régime qui a beaucoup travaillé aussi là-dessus. Avec le souci, voilà, à la fois de frapper les esprits par la rumeur, par l'anonymat. En même temps, pour torturer, il faut des manuels précis.
C'est ça. Ouais. Et donc, il semblerait, d'après ce qu'elle dit, que la pratique de la torture vise à plein de choses. On va peut-être en parler, mais en partie, elle visait aussi à former en fait les cadres du parti. Parmi les torsionnaires, la plupart étaient très très jeunes, avaient reçu un minimum d'éducation parce qu'ils avaient besoin de savoir écrire pour consigner les aveux des gens qu'ils torturaient. En revanche, ils n'avaient pas été en France, ils n'avaient pas bénéficié d'une formation universitaire à l'étranger. Mais ils étaient aussi vus un petit peu de ce point de vue-là, en partie, bien qu'ils étaient éduqués, comme des espèces de pages blanches bien utiles pour refonder un pays à partir de la Révolution. Et en dessous d'eux, il y avait les gardiens. Les gardiens qui souvent étaient des paysans à moitié analphabètes.
Voire des mineurs.
Et eux qui étaient considérés comme justement, en quelque sorte, le futur de l'organisation.
Oui, et aussi évidemment, tu disais, mais c'est une abolition de toute la sphère familiale, une forme d'intimité conjugale, familiale, etc.
La famille est quasiment abolie, en fait. C'est-à-dire que...
La famille, de la monnaie...
La famille n'est pas abolie en proprement parler, mais l'Ankar exige des Cambodgiens une adhésion, un attachement plus fort à l'organisation qu'à sa propre famille. Donc ils vont condamner les sentiments amoureux, ils vont condamner les sentiments familiaux, et ils vont inviter à dénoncer les proches si les proches sont des contre-révolutionnaires ou des saboteurs. Et donc, il y a cette dimension de formation qui est assez terrifiante. On se dit, on va former nos cadres, comment est-ce qu'on les forme? On les envoie torturer des gens, très bien. Et donc, les leçons, en quelque sorte, de Douche pour torturer, pour bien torturer, pour bien faire de la politique, sont aussi des leçons plus générales de politique khmer. Et donc, elle va diviser son livre en trois parties. À partir des slogans du parti, trois mots d'ordre au service de l'anéantissement, qui sont trois mots d'ordre, donc c'est cultiver, trier et purifier. Et donc ça, c'est les trois grandes parties de son bouquin. Et dans chaque partie, elle prend un mot khmer, utilisé dans la propagande et qu'on trouve dans le cahier, et elle l'explicite. Et donc, elle donne, comme je vous disais dans la première partie de l'émission, elle donne en quelque sorte son étymologie, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça signifie, parfois très littéralement, et qu'est-ce que ça signifie dans la langue des Khmer.
Donc, pourquoi ce choix-là? Pourquoi ces trois termes? Pourquoi cultiver?
Alors, parce que je crois qu'ils font partie des... j'ai oublié le détail, attends, je vais voir, parce que globalement, elle va s'attacher, elle rentre un peu dans la langue des bourreaux. Elle fait vraiment le triptyque, il y a le triptyque des mots, il y avait un triptyque khmer qui était politique, idéologie, organisation. Elle le retraduit en partie en disant qu'on pourrait aussi le traduire par politique, esprit et assigné. Et ensuite, je pense que le truc, c'est que elle va. J'ai oublié ça. Pourquoi est-ce qu'elle prend ces mots-là en particulier?
Bon, enfin, ouais. Après, peu importe. Et après, du coup, en fait, comment? Là.
Ben, déjà, cultiver, c'est relativement simple parce que c'est le côté. C'est la base de la révolution khmer. C'est, comme je le disais tout à l'heure, ils veulent
cultiver au sens de cultiver la terre. Quoi,
cultiver en fait, la terre,
produire du riz.
Mais sauf que ça va avoir tout un tas d'échos en termes de signification dans la pratique, y compris dans la pratique de la torture. Mais aussi trier, là aussi tu peux y voir...
Peuple nouveau,
voilà, le tri, et puis purifier, ben ça c'est par rapport essentiellement au fait que à S21, ce qui n'est pas le cas forcément dans tous les autres centres de torture, il y a énormément de Khmer rouges qui ont été, qui sont passés par là. Sachant que quand... alors pas seulement ceux qui torturaient, ceux qui étaient torturés aussi. Purifier, il fallait aussi purifier le parti.
Oui, bah, c'est purge permanente. Enfin, là,
c'est purge permanente, c'est ça. Ouais. Et donc, la purification, elle a ici, voilà, à deux niveaux. Purifier le tortionnaire qui devient un meilleur révolutionnaire en torturant, et purifier les traîtres au parti. Et à la suite, à l'intérieur de ça, elle va justement expliciter à partir de là tout un tas de choses. Alors, par exemple, un truc qui m'a pas mal plu au tout début de Cultiver, elle prend le terme d'absolu, qui était le terme. Alors, à l'ouverture du cahier noir, deux pages sont consacrées à une profession de foi qu'elle cite en gros caractères, un serment rythmé, sonnant à la manière des slogans révolutionnaires. Et donc, alors je vous le lis parce que, bon, quand même, ça vaut, je pense, le coup. Soyons fermement déterminés à cesser de dormir en interrogeant, donc en torturant. Hein. Soyons résolus à ne pas hésiter pendant qu'on interroge l'ennemi. Soyons résolus à pousser l'interrogatoire jusqu'à obtenir des réponses à donner au parti, absolument. Soyons décidés à étudier et à en tirer l'expérience pour avancer, pour atteindre la maîtrise totale de l'interrogatoire. Soyons absolus. Soyons décidés à défendre et à construire le pays pour qu'il soit d'une beauté sans tache, clair, pur, éblouissant, radieux. Soyons absolus. Soyons décidés à abaisser notre corps afin que la collectivité nous aide à construire et à nous diriger droit dans la bonne direction. Alors, si vous regardez S21, vous verrez qu'à un moment, un des anciens cadres discute avec les autres, et ici l'adjectif absolu traduit d'Ashkat, et en écoutant les gardes, à un moment, on voit qu'il dit un truc, et il y a tous les anciens gardes qui étaient gardes genre 15 ou 20 ans après, qui disent tous en même temps d'Ashkat, un truc comme ça, genre absolu, on est déterminé. avec l'idée que, ou c'est peut-être l'autre terme, les groupes clamaient leur détermination à grand remport de Tchegna. Tchegna, c'est justement, c'est viva, c'est dit à la manière d'un viva, et c'est justement le truc, on est déterminé, on est déterminé, ou alors on est absolu. Et donc, avec une posture corporelle. Et donc, ici, l'idée, c'est que, le mot lui-même, elle dit, voilà, ces exclamations énergiques qui ponctuaient les discours des Khmers rouges dans tout le pays, et qui jalonnent ici les premières pages du cahier noir, étaient indissociables de gestes codifiés. Par exemple, se mettre le poing à la tempe, en même temps qu'on prononce un mot. Elles invitent à considérer la part non métaphorique du langage des Khmers rouges, à se pencher sur les moments où les mots doivent être pris dans leur sens premier. Donc elle va souvent faire ça, ramener le mot à son sens littéral. Elle s'engage à explorer la manière dont la doctrine s'infiltre, imprègne, conquiert tant les esprits que les corps, puisque justement le mot accompagne un geste. À l'image donc du Dashkat ou du je dois prononcer horriblement mal, Tchegna, accompagné du salut, la combinaison du dire et du faire est une modalité incontournable de progression et d'élévation dans les rangs de la révolution, bien au-delà de ses slogans. Et donc, elle va comme ça, donc, par exemple, elle va prendre le mot juste après, le deuxième mot qu'elle analyse, c'est, donc ça c'était Dashkat, absolu, et le deuxième mot ça va être Samrock, enfoncé.
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 Ouais.
Et, oui, le truc c'est qu'ils vont, par exemple, ils vont quasiment jamais utiliser le mot de torture, ils utilisent souvent le mot d'interrogatoire. Et parmi les verbes donc, qui décrivent ce qui se passe ou doit se passer pendant les interrogatoires, Samrock, donc enfoncé, s'impose dans les premières pages du cahier noir, notamment dans un paragraphe titré « Les directions qu'il faut enfoncer ». Ces directions sont les pistes que les agents doivent explorer ou creuser, Samrock, signifiant littéralement « s'élancer en avant avec force »,« bondir »,« se ruer sur »,« se lancer à l'attaque ». Là, moi, ça m'a fait penser à l'usage massif, par exemple, par les nazis du mot « combat ». Ou du mot lutte, lutte peut-être chez les maoïstes, il faut lutter. Chez les nazis, ça allait être le combat, le Kampf. Et là, on a Samrock, s'enfoncer, quoi. Et donc, dans le cas de cette leçon, il recommandait aux agents, donc ça c'est la leçon de douche. Donc, par exemple, là c'est dans le cahier noir, donc c'est rigolo parce que ça combine des choses assez générales et des trucs très très
c'est quoi peut-être juste oui, rapidement tu peux citer d'autres exemples de termes là pour qu'on ait une idée un petit peu de cet imaginaire
carrément
qui se dessine parce que c'est assez spécifique en fait.
Oui, alors s'enfoncer, alors après juste après ben un autre truc qui est très très marquant, ça va être la saveur d'être des combattants. C'est-à-dire que, en quelque sorte, il faut se montrer combatif. Et donc là, il y a une saveur qui est prédite aux combattants, et ça va être qui tient à l'accumulation de victoires contre l'ennemi qui leur sont désignées. Donc globalement, voilà, il faut se sentir bien quand justement on réalise des objectifs, les objectifs à enfoncer, les sites, les positions qu'il faut prendre, et ainsi de suite. Et donc, là, par exemple, ils utilisent dans dans ce cadre-là, dans un contexte donc, des interrogatoires, une expression cambodgienne qui signifie littéralement « combat, méthode, interrogé » ou autrement dit « stratégie d'interrogatoire ». Parce qu'ils vont envisager l'interrogatoire comme un combat contre l'ennemi, un combat qu'il faut remporter.
C'est vrai que c'est assez frappant, quoi. C'est la construction de tout un lexique, finalement, oui. Un imaginaire, et qui est un conditionnement, et en même temps avec une espèce de dimension parfois presque contemplative dans la manière de présenter les choses.
Oui, c'est ça.
Et c'est ça qui est assez... assez dingue. Oui. On va peut-être faire une deuxième pause musicale, puis on reprendra pour la troisième partie de l'émission après. Bonsoir à tous, et bien sûr Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend pour sa troisième et dernière partie consacrée au livre de Anne-Laure Poré aux éditions La Découverte qui s'appelle La Langue de l'Ankar, donc consacrée au régime des Khmers Rouges qui a exterminé un quart de la population en 4 ans, il faut quand même le souligner. Entre 75 et 79, vous venez d'entendre le morceau qui s'appelle Torture du groupe Rapt. Voilà, c'est un morceau de 85, mais ça nous fournit évidemment une transition en or pour cette dernière partie de l'émission, si je puis dire. Justement, bah, la place, tu l'as dit, en fait, c'est les cahiers noirs de douche, hein, le responsable de ce centre.
C'est un cahier noir. Qui retrace les leçons de torture qu'il donne aux interrogateurs du centre S21.
Et qui est à la fois un manuel de torture, tu l'as dit, et un manuel de formation, finalement, des cadres.
Du parti. Enfin, on peut prendre comme ça, je pense.
Le tout, effectivement, avec ce travail sur le lexique, sur une langue complètement improbable, voilà, où on va essayer de conditionner jusqu'à l'imaginaire et puis le physique, finalement, de ces cadres du régime. La place de la torture, du coup, effectivement, dans ce régime. J'ai vu des formules en fait d'historiens sur le Cambodge qui disaient qu'en fait on pouvait comparer le Cambodge pendant ces 4 années en fait soit un camp de concentration géant, soit un hôpital psychiatrique géant.
Voilà. Et les Cambodgiens même disaient que c'était une prison sans mur.
Une prison sans mur, voilà, t'as dit effectivement, avec cette espèce de maillage là de sang de partout. Bon, près de 2 millions de morts quand même, un quart de la population.
Alors après, la plupart des morts sont liés à des famines, parce que le riz qui est produit. Ouais. Est souvent vendu à l'exportation, ou stocké, ou gardé pour les cadres du régime.
Du point de vue exécuté, les chiffres que j'ai vu passer, moi, c'est entre 6 et 700 000 quand même.
C'est beaucoup,
donc, c'est quand même pas...
C'est pas négligeable.
C'est pas négligeable, non, on peut pas dire. Donc du coup, la place de la torture, effectivement, dans ce régime, dans ce système, au cœur de cette langue aussi, du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors, le livre est très riche, hein, moi, je vous recommande de le lire. Et ensuite, parce que ça fait écho quand même à énormément de choses au niveau de ce qu'on peut appeler le totalitarisme. Et ensuite, on peut se demander quelle est la rationalité de cette torture. Qu'est-ce qu'ils cherchent après tout? Parce que est effectivement, tu disais, on a l'impression d'être dans un régime où le contact avec la réalité était complètement perdu. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils vont arrêter, torturer et exécuter autant de gens? Et ce qu'explique Anne-Laure Poré, c'est que, d'une part, le régime rejette la faute de tous ces échecs sur des complots internes. Et d'autre part, alors comment ça se passe? Si vous êtes mentionné 3 fois par des gens qui sont accusés d'avoir trahi, vous êtes considéré comme coupable. Il suffit d'être mentionné 3 fois par des gens qu'on torture pour obtenir des noms, hein, quand même. Donc ça va très très vite.
Des listes de noms.
Des listes de noms, c'est ça. Et donc il y a des listes et des listes de noms qui sont données par des gens qu'on torture. Et à partir de là, qu'est-ce que vont chercher à obtenir les tensionnaires de l'Ankar? Alors ils veulent surtout pas que les prisonniers meurent avant qu'ils n'aient fini leurs aveux.
Après
on les tue. À partir du moment, en tout cas, S21, c'est clair. Ceux qui arrivent à cet échelon-là des prisons Khmer Rouges sont morts.
T'as aussi, c'est dans le documentaire, c'était qui était complètement terrifiant. En fait, il y a aussi un certain nombre de prisonniers qui ont été littéralement vidés de leur sang.
Oui, c'était une des méthodes de mise à mort.
Mise à mort, et puis en fait, effectivement,
une collecte de sang
pour les blessés au front.
C'est ça, oui, on les vidait de leur sang.
Leur sang avec les poches attachées jusqu'à ce qu'ils...
Jusqu'à ce que, de toute façon, ils meurent parce qu'ils sont vidés, quoi. Et ici, l'idée, c'est que beaucoup d'importance va être attachée à la biographie de l'accusé.
Alors, explique ce que c'est cette biographie, là, justement.
Alors, la biographie, donc, c'est globalement...
C'est un peu particulier, aussi.
La biographie, c'est... globalement, ils sont censés raconter, en quelque sorte, d'où ils viennent, quel métier faisaient leurs parents, quelle était leur activité avant la Révolution. Et ensuite, très très vite, la biographie, en réalité, ça va être... c'est le récit de leurs crimes. C'est quels crimes ont-ils commis? Et la plupart des gens qui sont arrêtés par les Khmers Rouges n'ont absolument aucune idée de ce qu'on leur reproche. Ils ont parfois l'impression, ils se disent qu'ils ont été arrêtés par erreur, qu'ils vont bientôt être relâchés, parce qu'ils n'ont commis aucun crime. Et la plupart sont sincères, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Cambodgiens qui, au moins au début, était content de l'arrivée des Khmers rouges parce que les bombardements américains sur les dépositions cambodgiennes avaient été des villages cambodgiens qui servaient de base d'arrière au Viet Cong avaient été absolument sanglants et avaient mis pas mal de Cambodgiens en colère. Donc pas mal de Cambodgiens aussi exilés étaient revenus au Cambodge dans l'espoir de participer à la reconstruction du pays. Bref, plein de gens étaient relativement sincères dans un premier temps à la cause Khmer rouge. Donc ils savent pas pourquoi ils sont là. Et petit à petit, il va falloir leur faire comprendre qu'on veut des aveux.
Et des noms.
Et donc, plus les aveux sont donnés vite, moins on torture. Mais malgré tout, la torture est très très souvent une nécessité. Et alors, quel est l'objectif de ces aveux dont tout le monde va très très vite devenir conscient qu'en fait, ils correspondent absolument à rien de réel.
Y compris les tensionnaires.
Les cadres du parti, c'est que globalement ce que disent les tensionnaires, c'est à partir du moment où le parti a dit que vous étiez coupable, vous êtes coupable.
Il n'y a aucun tribunal, il n'y a aucun juge, il n'y a jamais eu aucun appareil.
Non, de toute façon, ils avaient tué tous les juges.
Voilà, donc pas
il y avait trois juges vivants en 79 dans tout le Cambodge.
À ma connaissance, je crois que c'est un calnique. C'est-à-dire que t'as pas la révolution russe, c'est au contraire une multiplication des tribunaux, des juges, des rapports, des enquêteurs, etc. T'as la même chose en Chine,
En France révolutionnaire, t'as des tribunaux dans tous les sens.
Là, t'as une abolition de l'appareil judiciaire.
C'est ça, t'es dénoncé trois fois, bim, torture. Et avoue tes crimes. Ouais. Et donc, si tu n'avoues pas tes crimes, on te trouve des crimes, on t'invente des crimes éventuellement.
On les rédige pour toi.
Si tu ne sais pas écrire. Une fois que tu as avoué, on te dit qu'on va t'envoyer en camp de rééducation et on t'exécute.
Mais le but, du coup, effectivement, c'est quand même assez fascinant. Tu as presque l'impression d'une espèce d'exercice de création littéraire gratuite, en fait.
Oui, parce que tu as beau inventer ces témoignages qui ont été conservés. Et donc, on voit un petit peu l'aveu des crimes qui sont conservés, qui sont bien rédigés. Alors le mieux c'est quand l'accusé pouvait rédiger lui-même ou elle-même l'énoncé de ses crimes, mais ses crimes supposés, mais régulièrement ils étaient écrits par les interrogateurs eux-mêmes. Et le but, semble-t-il, c'était dans un exercice de, là pour le coup on en reparlera très très bientôt, mais de double emporcée orwellienne totale, c'était de confirmer, d'après Anne Lorporé, l'infaillibilité du parti. Vous êtes accusé, donc vous êtes coupable, a priori. Et les gardiens, quand ils rentrent, ils le disent dans S21 de Ritipan, ceux qui rentraient, on les considérait comme déjà morts. Et le but, ça va être de confirmer aux yeux du régime et de ses cadres l'infaillibilité du parti. Si on t'accuse, on te fait avouer et éventuellement on invente tes crimes. Et ces crimes inventés servent à dire qu'on avait raison de t'accuser.
C'est hallucinant.
Et donc comme là, si tu te mets à la place des tortionnaires, tu te dis, mais en fait, c'est pour ça que je pense à la double pensée de Jean Orwell, parce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est un exercice de à la fois j'invente ton crime, j'oublie que j'ai inventé ton crime, et je me sers du crime, et je t'accuse du crime que j'ai inventé pour dire que le parti avait raison de t'accuser.
Que le parti dont moi
avait raison de t'accuser, et donc on a raison de t'exécuter. Ce qui fait que...
C'est-à-dire que la production écrite des aveux, des fameuses biographies, là, elle, c'est un rouage du régime.
Oui, et il semble qu'elle ait été lue par... que les aveux aient été lus par les plus hauts dignitaires. On a vraiment affaire à quelque chose d'extrêmement curieux, en fait.
Autant tu as un régime exterminateur avec la solution finale en Allemagne, autant là, tu as l'impression d'un régime qui est, en fait, intrinsèquement tortionnaire. En fait.
Oui. Et il semble que le but, c'est aussi de produire une espèce d'histoire officielle. C'est-à-dire, ça explique les échecs du parti, le fait qu'il soit aux prises avec un ennemi protéiforme, omniprésent et très très rusé. Et donc, comme si c'était aussi les premières briques de l'histoire officielle à transmettre peut-être aux descendants du régime.
Mais qui est fictive. Qui est fictive, sauf dans la mesure où elle confirme la légitimité à torturer.
Voilà.
Donc la légitimité du régime est celle-là. Et il s'agit de raconter ça et de l'attester par une production massive d'aveux qui n'ont pas de rapport avec un crime réel.
Avec aussi une polarisation extrême du champ politique. qui n'est pas sans faire penser à Carl Schmitt, mais sur, sur l'intérieur, c'est-à-dire la définition de l'ennemi, et l'ennemi, c'est un truc qui est complètement radical. C'est-à-dire que l'ennemi des Khmers rouges est complètement essentialisé, le peuple nouveau ne pourra jamais devenir peuple ancien. Ils sont traîtres, mais ils sont essentiellement traîtres. Par conséquent...
ça, c'est le purifié, j'imagine.
Et c'est ça, c'est le purifié, mais c'est aussi un slogan du parti qui était on gagne rien à te garder, on ne perd rien à te perdre.
Et une espèce d'altérité.
Tu n'existes pas. Ce qui fait que, par exemple, c'est pour ça qu'ils n'ont pas du tout, dans les mots qu'ils utilisaient pour, comment dire, pour tuer les gens, il y avait détruire, éliminer. Ils parlaient des gens qu'ils allaient détruire comme d'objets. Voilà. Et ça s'accompagnait de tout un tas de choses au niveau du traitement des corps, où on traitait vraiment les cadavres des ennemis comme, voilà, comme rien.
Il y a eu des cas signalés de cannibalisme. Hein.
Ah oui, elle n'en parle pas.
Alors, t'en as eu, bon, allez, après, en fait, il y a un côté un peu, comment dire, aussi mythologique hein, du régime, et puis en fait, les informations ont très peu filtré, très tardivement, très peu de... Mais il y a effectivement des cas de cannibalisme, de prisonniers, en fait, voilà, ouais, exécutés, dont les gardiens auraient bouffé le foie, ou ce genre de choses. En fait, on est sur ce niveau-là. Hein.
Ah, tu le mets sur du cannibalisme quasiment rituel, alors?
Quasiment. Ouais. Quasiment, hein, d'après. Alors, il faudrait vérifier parce que je
elle n'en parle pas.
Quoi, mais ouais, ça fait partie effectivement des je ne sais pas si une légende, mais en fait, des récits noirs, si on peut dire, sur ça. Mais alors, c'est pas massif, hein, mais il y a des cas effectivement qui ont été visiblement recensés. C'est pour ça qu'on est sur quelque chose de très, très spécial. Enfin,
oui. Avec aussi l'idée que, justement, l'interrogatoire est un combat mené contre l'ennemi. Ouais. La victoire, c'est l'obtention des aveux. Ouais. Mais la défaite, ça peut être, par exemple, le suicide ou du prisonnier.
Oui, bien sûr. C'est un échec.
On a perdu contre l'ennemi parce que l'ennemi, justement, en réussissant à mourir avant qu'on extorque l'aveu de ses crimes, a sans doute protégé d'autres ennemis. Ce qui fait que là aussi, mais ça c'est quand le régime devient limite complètement autodestructeur à force de se purifier.
Il est dès le départ.
Il est dès le départ, oui. Mais il semble qu'il y ait quand même un emballement au fur et à mesure. Parce que pour eux, globalement, tu utilises un marteau pour construire une maison, tu casses le marteau, t'es un saboteur. Et tu deviens très très vite suspect. Parce que tu as entravé l'action révolutionnaire du parti, de l'organisation.
Est-ce qu'il y a des mots là-dessus? Parce qu'il y a aussi apparemment des débats là, autour de ça, sur la forme spécifique qu'a pris en fait, cette espèce de dictature folle là, au Cambodge. Il semblerait que tu as aussi des débats sur la coloration quasiment religieuse ou mystique en fait, même de certains de l'encart en tant que tel, cette espèce de puissance. Voilà, destructrice, torsionnaire, anonyme, tu vois, absolue d'une certaine manière. Voilà, le rôle de l'absolu, évidemment, c'est le premier terme qu'elle met en avant. On est presque dans une métaphysique, là, en fait. C'est une métaphysique de la torture, quasiment. Alors, est-ce qu'il y aurait... J'ai cru comprendre que tu avais des débats autour de ça, sur un contexte, voilà, lié aussi au bouddhisme, une espèce de dissolution de l'individu évidemment, à la communauté.
Clairement, oui, c'est quelque chose qui est thématisé chez elle, avec justement le fait que, alors bien que les...
Comme quoi,
il
faut se méfier des bouddhistes. Hein.
Bien que les Khmers rouges aient aboli la religion.
Ouais. Oui, il y a une abolition, c'est le...
Tuer quasiment tous les moines. Ouais. Transformer les pagodes en porcheries ou ou en d'autres trucs. Ouais. Ils ont quand même énormément repris tout le vocabulaire, une bonne partie du vocabulaire bouddhiste, mais en tordant son sens. Mais malgré tout, en jouant sur les échos qu'ils pouvaient avoir dans une population qui avait été biberonnée au bouddhisme pendant des millénaires. Donc oui, il y a tout ça. Alors, on arrive à la fin de l'émission.
Bah, on va peut-être, on va s'arrêter. Donc, sur la présentation, tu recommandes.
Carrément, oui. C'est un très bon bouquin de Anne-Laure Poré, qui est beaucoup plus riche que le peu de choses qu'on a pu aborder. Donc, La langue de l'encart, Leçon Khmer rouge d'anéantissement.
Aux éditions La Découverte.
Voilà, donc voilà, très bon bouquin à recommander.
Et donc, vous pouvez retrouver bien évidemment cette émission sur le site de Jeudi Noir, gurdulu.org. Eh bien, on vous dit à la prochaine fois. On se quitte sur un morceau d'Attila Krang qui s'appelle, fort, fort pertinemment encore une fois, Cambodge.